accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. L'Église n'en a pas fini avec les scandales de pédophilie. Le dernier livre sur la question, Église, la mécanique du silence, coécrit par Daphné Gastaldi, Mathieu Martinière et Mathieu Péris aux éditions La Tasse, vient à nouveau mettre en cause la hiérarchie de l'institution. Des présumés coupables que l'on cache, des agresseurs qu'on envoie à l'étranger pour qu'ils se fassent oublier, des victimes que l'on nie. La stratégie du silence fonctionne toujours, y compris pour des faits très récents. C'est ce qu'a expliqué un des auteurs, Mathieu Péris, à Catherine Roland.
La moitié de ces cas ont été couverts après l'an 2000, contrairement à ce qu'affirme l'Église qui répète que ce sont des faits anciens qui remonteraient aux années 60, 70. Voilà, on montre que c'est malheureusement des pratiques qui ont toujours cours à l'heure actuelle.
Alors vous avez obtenu de nombreux témoignages de victimes, notamment grâce à l'association La Parole Libérée. Et ce qui frappe d'abord, c'est que ces victimes ont mis souvent énormément de temps à parler.
Oui, et c'est la principale caractéristique de ces affaires d'agression sexuelle. Ce sont des gens qui ont été agressés souvent entre 8 et 10, 11 ans, pour ce qui relève vraiment de la pédophilie caractérisée, et qui finalement se mettent à parler passé 40 ans, malheureusement souvent trop tard, puisque en France, la prescription est de 20 ans à compter de la majorité. Voilà, quand on commence à parler à 39, 40 ans, c'est trop tard, la justice ne peut plus se saisir de l'affaire.
Le plus étonnant, c'est que des prêtres mis en cause ont également parlé, accepté que vous les interviewez.
Mais on a été les premiers surpris d'ailleurs. Plusieurs ont accepté de nous parler, réussissent à mettre des mots sur les agressions qu'ils ont commises. Cette parole-là, elle est importante parce que ça montre qu'eux aussi sont aussi victimes du silence de l'institution qui met un couvercle sur ces faits. Ce sont des prêtres qui parfois ont tenté presque d'alerter leurs supérieurs qui souvent étaient au courant de leur attirance pour les enfants. Et ces supérieurs n'ont rien fait et au final, ces prêtres pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans subissent quelque part aussi, même s'ils sont responsables de leurs actes, subissent aussi cette chape de plomb sur leurs actes.
Alors on va commencer par une affaire très emblématique qui ouvre pratiquement le livre. C'est l'affaire Prena, du nom de ce père qui avait avoué justement ses pulsions sexuelles et pourtant aucune mesure n'a été prise.
Dès les années 60, quand il était encore au séminaire, donc même pas encore prêtre, le père Prena avait déjà parlé de son attirance envers les jeunes, à ses supérieurs qui le formaient. Et voilà, et cette attirance a été à plusieurs reprises dans les années 78, 82, puis 91, révélée à ses supérieurs qui ont à chaque fois l'ont laissé en poste. Puis quand c'est devenu un peu trop visible, l'ont envoyé à la campagne, dans les monts du Lyonnais à une petite heure de Lyon, puis n'ont jamais alerté la justice. Là où il aurait fallu faire un signalement au procureur, ils se sont contentés de le mettre au vert.
Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que le cardinal Barbarin est mis en cause, enfin assez récemment.
Ce qui était reproché au cardinal Barbarin, il faut quand même rappeler que il a bénéficié d'un classement sans suite l'été dernier. Ce qui lui était reproché, c'était entre 2005 et 2010. Voilà, le cardinal Barbarin aurait été alerté et l'a laissé en place, alors que plusieurs victimes sont venues le voir dès 2011, même en 2014-2015, il a fallu encore une bonne année avant d'agir véritablement.
Oui, on peut parler du poids de l'omerta aussi bien donc dans la hiérarchie catholique, mais même au sein des fidèles qui restent justement fidèles à leurs prêtres et à leurs évêques.
Oui, ça c'est très marquant, notamment dans le cas Prena, mais pas seulement, dans beaucoup d'affaires. Il y a un malaise quand même dans une partie des fidèles à croire qu'un prêtre qui est réputé infaillible, exemplaire, puisse être à l'origine d'actes aussi durs. Et ce qui fait que naturellement, on va peut-être prendre plutôt le parti du prêtre, on va préférer le croire lui plutôt que l'enfant, un enfant de 10 ans qui vient vous voir et qui explique avec ses mots à lui ce dont il a été victime. Alors c'est pas toujours très clair, il faut réussir à lire entre les lignes. Et bien souvent, c'est le parti du prêtre qui l'emporte et le parti de l'institution qu'on ne doit finalement pas remettre en cause.
Vous le disiez, certains prêtres ont été éloignés à la campagne, d'autres ont carrément été exfiltrés, alors soit en Afrique, au Canada, en Amérique latine. Et ce que vous dites, c'est un véritable système. Justement, on parle de mécanique et ça date depuis des siècles.
Effectivement, ce qu'on a vu, ce sont des occurrences, plusieurs cas de prêtres accusés par des jeunes à Lyon d'avoir commis des agressions qui sont envoyés en Guinée. Un prêtre poursuivi, recherché par la justice canadienne depuis 98, qui en fait a coulé des jours paisibles en Provence et puis aujourd'hui à Strasbourg dans une maison de retraite. Voilà, ça montre bien qu'il y a une habitude dans l'Église de mettre de côté, et puis finalement, d'un diocèse à l'autre, eh ben, on se rend quelque part des services, on accueille sans trop poser de questions, en fait. Et surtout ça, on ne veut pas vraiment savoir pourquoi la personne vient.
Il faut d'ailleurs signaler toute l'ambiguïté du Vatican, et notamment du pape François, qui a condamné les actes de pédophilie, mais en même temps est capable, finalement, de rassurer un évêque qui a couvert un prêtre.
Oui, alors le pape François a commandé, lorsqu'il était encore archevêque de Buenos Aires, un rapport juridique pour essayer de prouver l'innocence d'un prêtre qui était accusé et qui a ensuite été condamné d'agression sexuelle. Alors, on ne peut pas dire que le pape ait directement transmis ce rapport, mais en tout cas, ce rapport était destiné manifestement à influencer la justice, et d'ailleurs, des juges argentins le disent très bien. En fait, il y a tout un paradoxe, parce que le pape François, effectivement, fait beaucoup de communication, met sur pied des commissions, fait appel à des experts, même d'anciennes victimes, qui ont d'ailleurs claqué la porte très récemment de ces commissions. Donc il fait beaucoup de com', mais le pape qui a le plus agi sur ces questions-là, c'est pas le pape François, c'est Benoît XVI, qui avait pourtant une image extrêmement conservatrice. C'est lui qui a pris des mesures fortes.
Et au Vatican, justement, où le pape François affiche sa tolérance zéro sur la question, qu'en est-il réellement? La commission de protection des mineurs mise en place pour s'attaquer au scandale connaît ses premiers couacs. À Rome, Olivier Bonnel.
Au Vatican, la commission pontificale de protection des mineurs a été mise en place il y a 3 ans sur la volonté du pape François. Elle est dirigée par le cardinal américain Sean O'Malley, l'archevêque de Boston, où éclata le scandale Spotlight. Son travail est de faire des propositions au pape pour mieux lutter contre la pédophilie dans les différentes églises locales. Mais depuis quelques mois, la commission se heurte aux lenteurs de la curie romaine, le gouvernement de l'église à Rome. Début mars, l'Irlandaise Mary Collins, membre de la commission et ancienne victime d'abus sexuels, en a claqué la porte avec fracas, dénonçant la mauvaise volonté de cette curie, en particulier la congrégation pour la doctrine de la foi. La commission a pourtant lancé l'an dernier des programmes de formation dans les différents dicastères, les ministères du pape. Ils ont aussi rencontré les nouveaux évêques du monde entier venus en formation à Rome pour les aider à repérer les cas d'abus sexuels, à briser le silence surtout. Membre de cet organisme, le prêtre jésuite allemand Hans Zollner.
C'est une chose exceptionnelle et très réconfortante parce que nous avons pu parler avec toute la nouvelle génération d'évêques, ceux ordonnés ces 2 dernières années dans le monde entier. Il s'agissait justement d'expliquer la gravité des abus et la nécessité de les prévenir, de tout faire afin que dans les paroisses, les écoles catholiques, les internats ou les universités, des mesures soient prises pour protéger des mineurs.
Peur du scandale, crainte d'éclabousser l'institution, les membres de la commission n'ont de cesse d'appeler à plus de 30 transparence a changé une culture du secret. Et tant pis si c'est douloureux, car ceux qui souffrent aujourd'hui, ce sont les victimes d'abus sexuels, le père Hans Zollner.
La transparence concerne plusieurs choses. La première, c'est l'attention aux victimes. Je suis absolument d'accord pour dire que les victimes doivent être écoutées. C'est la chose la plus importante que nous puissions offrir. Ensuite, la transparence signifie aussi que, comme Église et responsable de l'Église, évêques et provinciaux, nous devons être très ouverts dans la critique de ce qui n'a pas marché ces dernières années. Et puisque le Seigneur nous dit que la vérité nous rend libres, alors nous devons dire la vérité, admettre que nous avons commis des erreurs et parfois même des crimes, que ce soit sur le plan civil ou sur le plan canonique.
Malgré sa bonne volonté, le pape François se donne-t-il réellement les moyens pour remporter la bataille contre la pédophilie dans l'Église? Certains se posent la question alors qu'il aurait le pouvoir de démettre des évêques qui ont couvert des crimes pédophiles. Il y a 2 ans, François a confirmé la nomination d'un évêque au Chili, pourtant au courant d'abus sur mineurs. L'affaire avait provoqué un scandale dans son diocèse. Mais l'Église est complexe, et pour le père Zollner, il faut admettre qu'elle ne tourne pas qu'autour du souverain pontife.
L'Église est très multiforme, et les églises locales ont une vraie responsabilité. L'entité la plus importante dans l'Église, c'est le diocèse. Et l'évêque a un grand pouvoir juridique sur ce diocèse. Non, l'Église n'est pas une grande entreprise mondiale. C'est un organisme beaucoup plus diversifié qu'on pourrait le croire vu de l'extérieur. Comme a dit Marie Collins, qui a fait partie de notre commission pontificale, le pape n'est pas le directeur d'un grand groupe, d'une multinationale qui peut faire ce qui lui plaît.
Le pape François lui-même semble conscient de ces obstacles et surtout du cléricalisme, cette culture qui juge avec mépris tout ce qui n'émane pas du Vatican lui-même. La commission de protection des mineurs n'a quant à elle aucun moyen de vérifier comment ces recommandations sont mises en œuvre, a regretté Marie Collins après en avoir démissionné. Elle n'a pas non plus de budget propre et donc d'indépendance financière. Cléricalisme et bureaucratie, deux fléaux qui frappent l'Église et que le pape ne cesse pourtant de dénoncer régulièrement. Une bataille qui prend du temps alors que de nombreux prêtres pédophiles vivent encore cachés et n'ont toujours pas été poursuivis. Comme le résume amèrement Marie Collins, sur un sujet aussi grave que la pédophilie, dès qu'on temporise, on laisse des enfants en danger.
Et c'est un sujet qui fâche aussi au Saint-Siège, le mariage homosexuel. Après des mois de débats dans lesquels l'Église est venue aussi peser avec ses arguments, la Slovénie a finalement autorisé l'union partenariale pour les couples de même sexe. On l'aura compris, ce n'est pas tout à fait un mariage. Les explications de Simon Rico.
Nous sommes très heureux et très fiers de célébrer la première union entre personnes de même sexe en Slovénie. Nous pensons que ces unions sont une étape importante dans l'évolution vers une société plus inclusive où les gens auront tous les mêmes droits. Voilà comment Xenia Klampfer, la responsable du service des mariages de Maribor, s'est réjouie d'avoir tenu la première cérémonie d'alliance entre deux femmes. La nouvelle loi sur l'union partenariale est donc entrée en vigueur en Slovénie très exactement 10 mois après avoir été votée par les députés. Ce texte garantit une communauté de vie de deux femmes ou de deux hommes et reconnaît une pleine existence juridique aux couples de même sexe. Jusqu'à présent, ceux-ci devaient se contenter d'une communauté partenariale dont les contours étaient flous. Avec l'union partenariale désormais en vigueur, les couples slovènes de même sexe disposent des mêmes droits que les couples hétérosexuels en termes de protection sociale, de transmission de patrimoine ou encore de séparation. Mais l'adoption commune d'enfants et la procréation médicalement assistée ne leur sont toujours pas autorisées. Si les associations LGBT se félicitent d'une très nette avancée de la législation vers l'égalité des droits pour les couples de même sexe, elles regrettent néanmoins que persiste la distinction symbolique entre mariage et union. Leur combat avait connu un coup d'arrêt en décembre 2015 quand les Slovènes s'étaient prononcés contre le mariage homosexuel à une large majorité. Plus de 63% des votants avaient rejeté cette possibilité lors d'un scrutin marqué par une très forte abstention. Ce référendum avait été convoqué par les opposants soutenus par le pape François après l'adoption par le Parlement d'une loi qui avait redéfini le mariage comme l'union à vie de deux personnes indépendamment de leur sexe.
Une mesure exemplaire qui pourrait donner des idées à d'autres pays européens. Le Luxembourg a décidé de rendre les transports publics gratuits pour tous les étudiants à partir du mois d'août prochain. Une première, mais il faut dire que le duché est à la fois un des plus petits et des plus riches pays de l'UE. Reportage à Luxembourg de Domitille Piron.
Si les scolaires ne payent pas, les étudiants ne devraient pas payer non plus. Un argument imparable que le ministère a donc dû accepter. Un Luxembourgeois inscrit à l'université pourra donc bénéficier de la gratuité jusqu'à ses 30 ans. Pour le gouvernement du Grand-Duché, c'est une perte de recettes évaluée à 2 millions d'euros. Mais pour Alex Kiss, le directeur des transports publics au ministère du Développement durable et des infrastructures, cette mesure sera bénéfique pour tous.
C'est important que les jeunes gens utilisent les transports publics parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est souvent le cas qu'à 18 ans, ils ont un permis et après, tout de suite, une voiture. Et elle prend tout de suite la coutume d'aller partout en voiture et ça c'est quelque chose qu'on peut quand même changer.
Emma Teil avoue, dès qu'il est arrivé à Luxembourg pour étudier, ce jeune Polonais a décidé d'acheter une voiture car l'offre des transports publics ne correspondait pas à son mode de vie. Pour aller de sa résidence jusqu'à l'université, il devait prendre deux bus différents, ce qui ne lui convenait pas.
I drive the car mostly.
J'utilise principalement ma voiture parce que c'est beaucoup plus pratique. À Luxembourg, si tu as une voiture, c'est bien mieux, parce que si tu veux aller en dehors de la ville, il n'y a pas beaucoup de bus. Tu dois attendre une heure avant que le bus n'arrive, surtout si tu sors tard le soir. Là, tu es foutu. Donc finalement, oui, la voiture, c'est mieux.
Et il ne changera pas ses habitudes malgré la gratuité des transports. Dans la capitale luxembourgeoise, il y a 31 lignes de bus et 4 lignes la nuit. Le système de paiement et de validation des titres de transport est vieillissant. Les tickets s'achètent à la gare centrale ou sur un vieil eurodateur. 2 euros pour un aller-retour, 4 euros pour la journée. Les contrôles sont rares et les fraudes massives. Tout est donc en train de se moderniser. La ville change également et verra bientôt l'arrivée du tramway. Une bonne nouvelle pour les usagers qui attendent depuis un certain temps. Alex Kiss du ministère des Infrastructures.
C'est une discussion qui date déjà des années 2000 et on a pris beaucoup de temps pour prendre une décision. Vraiment, quel système de tramway on utilise et quel itinéraire. Et c'est au niveau politique, ça a souvent changé d'avis. Maintenant, on est en construction et c'est bon.
La première ligne de tramway sera opérationnelle au mois de décembre de cette année et plusieurs extensions sont prévues d'ici 2020. Améliorer l'offre de transport en commun devenait crucial, d'autant que Luxembourg est la ville européenne où la voiture arrive en tête des moyens de transport. Elle est classée dernière parmi 23 villes européennes sur les efforts en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, selon Soft Free Cities.
Et c'est clair que les voitures diesel, comme les bus, sont un élément qu'on peut adapter pour rendre la ville un peu plus propre. C'est pour ça qu'on va mettre beaucoup de bus électriques en place, à part le tramway. Mais ça va juste avoir un petit impact parce que c'est quand même la voiture individuelle qui fait une grande partie aussi de la pollution.
Le Luxembourg vient tout juste de mettre en place un plan d'action pour améliorer la qualité de l'air avec des mesures comme l'abattement fiscal pour les voitures zéro émission et des points de recharge électrique publics d'ici 2020.
Le marché de l'art contemporain, c'est une figure singulière. Dafa Konaté veut faire connaître l'art africain en Turquie avec son projet Kellen. Elle a déjà organisé 5 expositions à Istanbul où Anandlauer l'a rencontrée.
En Bambara, langue du Mali, Kellen signifie un, unité. Dafa Konaté y voyait un joli message par les temps qui courent dans le monde. Mais le projet Kellen porte doublement bien son nom. Dafa Konaté, d'origine malienne et sénégalaise, est en effet la seule à faire ce qu'elle fait en Turquie, importer des œuvres d'artistes africains exclusivement pour les exposer et les vendre au public stambouliote. Kellen est encore jeune, l'affaire n'est pas toujours simple, mais Dafa Konaté y croit. En un an, cette femme élancée et souriante, qui n'avait aucun rapport jusqu'alors avec le monde de l'art, a fait connaître 5 artistes dans sa ville d'adoption. 2 Sénégalais, un Congolais, un Burkinabé et un Ghanéen. Son ambition, dit-elle, est de montrer l'Afrique sous un visage différent. Une Afrique riche, optimiste et belle. La jeune femme l'a vite constaté, l'art africain n'est que peu connu en Turquie et les visiteurs lui réservent souvent des regards étonnés. Raison de plus pour le montrer, comme elle nous l'explique lors d'une exposition consacrée aux peintres Kazibé et Kofi Frimpong.
Le fait que des Africains peignent, quoi. Rien que ça, déjà, ils se l'imaginent pas, quoi. Ils sont agréablement surpris de découvrir des artistes peintres africains. Pour eux, l'Afrique, c'est vraiment, ils connaissent pas, quoi. C'est loin, ils découvrent, quoi. Et puis pour beaucoup, l'image des Africains, c'est les Africains qui viennent par bateau, qui essayent de traverser la Turquie pour aller en Europe, quoi. Donc, ils sont agréablement surpris, en fait, quoi. C'est une vraie découverte, quoi.
Novice en matière d'art, au-delà des œuvres et des objets qu'elle glanait pour son intérieur, Dafa travaille au coup de cœur. Si les œuvres lui plaisent, que l'artiste est partant et que la confiance s'installe, la jeune femme fait jouer ses réseaux pour leur trouver un lieu d'accueil. Ce dont elle est la plus fière pour l'instant, avoir fait venir pour un vernissage à Istanbul le peintre Babali, l'une des étoiles montantes de la peinture sénégalaise.
Et dès la fin de la semaine, Dafa Konaté sera à Paris pour présenter ses artistes dans le cadre de la plateforme « L'Afrique, c'est chic ». Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission. On se retrouve dès demain.